RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec mon coach préféré, le meilleur coach de France, Yoann Durand qui est là. Salut Yodu.
Salut Benoît, salut à tous. Ça va ?
Yodu, on est en veille de marathon, donc on souhaite un bon marathon à tous ceux qui vont nous écouter aujourd'hui avant la grande échéance. Demain, 60 000 coureurs dans les rues de Paris, ça va être fantastique. Gros dispositif ouais. RMC Running. Rassurez-vous, on sera là pour vous accompagner et on va se régaler. D'ailleurs, on vous remercie pour le soutien affiché sur les réseaux sociaux, sur Strava, sur Instagram notamment, et sur les plateformes de téléchargement, parce que les notes continuent de monter, le nombre de commentaires laissés.
On a des bonnes notes.
Voilà, on est bien noté. T'es mieux noté qu'à l'école, Yodu, pour l'instant.
Mais oui, non, mais c'est dingue ça. Comme quoi, moins je travaille, mieux je suis noté.
Ah, tu travailles pas, oui, c'est le talent.
Ah, pas beaucoup.
Ouais, c'est ça le truc. Ok. Écoute, c'est un épisode qui va intéresser tous les coureurs qui nous écoutent, coureurs et coureuses, parce qu'on va parler de problèmes liés au kiné, toutes les idées reçues que vous avez sur le running. C'est une grande foire aux questions parce qu'on a avec nous aujourd'hui le kiné le plus connu de France, Major Mouvement, Greg, qui est avec nous. Salut Greg.
Salut Benoît, salut tout le monde, ça va?
Bah écoute, ravi que tu sois là, ça faisait des semaines qu'on voulait t'accueillir, c'est le cas aujourd'hui, donc sois le bienvenu.
Alors dans la formulation, ça faisait des semaines qu'on voulait t'accueillir, je crois qu'on est plus proche du harcèlement par message privé de tes équipes.
Oui.
C'est-à-dire que vraiment, il y a un moment donné, vous m'avez même suivi sur le périph', non?
Oui, tout à fait.
Les appels de phare.
On a sonné chez toi même.
Ah oui.
On a fait des fausses consultations et tout pour pouvoir venir.
Tu rigoles, j'ai eu ça récemment. Quelqu'un qui a fait une fausse consultation pour me demander de faire un projet professionnel avec moi.
Ah ça fait peur.
Ouais, ça c'est chiant.
Ah mais ça on en parlera parce
on
que
en parlera, on parlera.
Réussite incroyable et limite un burn-out lié à tout ça. Comme
on en parlera parce que en vrai par rapport au marathon, vous allez voir que ce qui se passe dans votre vie joue énormément dans ce qui se passe dans vos baskets.
Ah, ça, c'est intéressant. Bah, tu vois, on pourra en parler, mais moi, je pense surtout à toutes les personnes que tu rencontres et qui disent « Ah bah, ça tombe mieux parce que j'ai mal là !» Et je voulais que tu me
mènes.
Et bah, sache que ça me ferait toujours marrer. Ça, moi, enfin, dans le bon sens du terme, ça me passionne toujours.
Ah ouais, c'est sûr.
Ouais, je vois ça comme une enquête.
Ça, c'est le lot de tous les kinés. Hein. Alors, ouais. Famille,
bah, ça, c'est sûr.
L'oncle que t'as pas vu depuis 6 mois qui te dit « Eh, j'ai ça !» Qu'est-ce que c'est ?
Ouais, mais, sauf qu'il a une grande famille, Greg, ouais, dès qu'il sort dans la rue, il croise quelqu'un qui lui dit quoi. Bon, on en parle dans un instant et on aura un bon plan aujourd'hui, un bon plan de la marque Circle avec une paire de Supernatural Runner à faire gagner. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running. Évidemment, tu as une très forte communauté, plus de 2 millions de followers sur les réseaux sociaux. Greg, juste en quelques mots, est-ce que tu cours encore? J'ai vu que tu avais fait le marathon de New York en 2025. Est-ce que déjà tu es un passionné de course à pied, de sport, oui, mais de course à pied en particulier?
Je dirais que la course à pied a été un fil rouge tout au long de ma vie. Je pense que j'ai commencé à courir avec ma mère quand j'avais 13 ou 14 ans.
Ouais.
Et je le fais par période. Je le fais par période parce que pour moi, c'est l'un des sports les plus sociaux, un des sports les plus sociaux. Mmh. C'est un sport où on rencontre beaucoup de monde, la course à pied. et c'est pour ça que je le prends. Maintenant, c'est vrai que je n'ai pas l'assiduité de quelqu'un qui voudrait performer, toute proportion gardée, bien sûr. Hein. Mais je n'ai pas cette assiduité dans la course à pied.
Parce que tu n'as pas l'envie ou tu n'as pas le temps, surtout?
Mon sport principal à moi, ça reste le jiu-jitsu brésilien.
Ouais.
Et je m'éclate à ça, qui demande déjà pas mal de temps. Mmh. Et je connais aussi les contraintes potentielles du surentraînement sur le corps. Bah, y a un moment donné, je trouve que passé 35 ans, il faut faire un choix de nos pratiques sportives, un choix en pleine conscience. Et on en parlera parce que j'ai souvent des profils de personnes qui se blessent parce qu'ils n'ont jamais fait ce choix. Ils subissent leur pratique sportive et ils commencent à avoir des signaux d'alerte. Ça commence par le genou, ça commence par la hanche, ça commence par l'épaule. Et il y a une triste vérité qu'on ne nous explique pas assez, c'est que passé 35 ans, notre corps, il se spécialise beaucoup dans la pratique sportive qu'on fait ou celle qu'on ne fait pas, il a de plus en plus de mal à être polypratiquant.
Ouais. Ou alors il faut l'éduquer, peut-être.
C'est comme le polyamour. Voilà, on en parlait avec Max.
Ouais. Avec Max, notre producteur, et avec Yoann, qui est un spécialiste du polyamour.
On croit que c'est plus simple, mais en fait, c'est juste plus de problèmes.
Exactement. Tu as croisé un de nos amis sur un programme d'M6 récemment, Les Traîtres, Manu Petit. Donc, le polyamour, tout ça, lui, ça le connaît. Donc, j'espère que tu as parlé de tout ça.
Je ne m'exprimerai pas à sa place, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'il maîtrise, le bouquet.
Un mot de ton marathon de New York, moins de 4 heures, c'était fantastique.
C'était
par contre difficile en plus.
C'était un parcours difficile, mais c'était exceptionnel.
Ah, mais c'est beau.
J'ai un conseil que m'a donné Marine Leleu. Je le donne à toutes les personnes qui vont faire un marathon, encore plus quand il y a une vraie ambiance. Mm-hmm. Mettez votre nom sur votre t-shirt. Moi, alors, je l'avais écrit au feutre dégueulasse. Hein. Au début, je pensais le faire floquer. J'ai pas eu le temps, machin. Juste écrit au nom dégueulasse. Et quand t'as, il y avait combien, je crois, 200 000 personnes, mais j'ai peur de dire une connerie.
Oh, quoi, en participant.
Spectateur.
Ah non, 1 million, je crois.
Ouais, voilà. Ouais.
Ah non, mais c'est fou. New York, c'est la meilleure ambiance du monde.
Je confonds toujours 200 000 et 1 million. C'est souvent ce qui pose problème avec mon banquier.
Avec l'URSSAF.
Avec l'URSSAF. mais en effet, c'est incroyable d'avoir autant de personnes qui crient ton nom.
Ouais.
Je te jure, il faudrait faire une étude de ce qui se passe dans le cerveau à ce niveau-là. Mm. Mais je planais à 10 000.
Mais ça, c'est un bon conseil, notamment, c'est tout bête, hein, mais justement pour le marathon de Paris qui est ce week-end, quand vous avez la possibilité sur le dossard de mettre votre prénom, parce que ça fait toujours chaud au cœur quand on crie votre prénom.
Ah oui, c'est incroyable.
Oui, c'est
faites bien gaffe de quand même maintenir vos allures, parce que ça peut être l'autre piège. Quand on est un peu chaud, qu'on est un peu motivé et tout.
Ah oui, bien sûr.
On peut avoir tendance à finir plus tôt que prévu.
Ne pas s'emballer.
Voilà.
Ça, effectivement. Donc toi, évidemment, tout le monde te connaît, mais t'es kiné de formation.
Ouais.
T'as explosé sur les réseaux sociaux il y a plusieurs années désormais.
Il y a 8 ans à peu près, ouais.
Mais tu gardes malgré tout ton l'amour de ton métier. T'es toujours en train de consulter. Voilà.
On le lundi et le mardi.
On prend rendez-vous avec toi le lundi et le mardi. Ouais. Enfin, bon courage à vous.
Ouais. Voilà. Alors. Donc c'est pas pour
sur le principe, c'est ça, mais voilà.
Bah, tu serais surpris parce qu'en fait, j'ai parfois des gens qui prennent rendez-vous 3 mois à l'avance et qui, entre-temps, trouvent mieux que moi, plus proche que moi, plus dispo et qui vont mieux. Ou parfois, j'ai des gens qui vont mieux naturellement et qui annulent au dernier moment. Donc j'ai soit des gros lapins 10 minutes avant, soit un planning qui est plein 3 mois avant.
Donc,
maintenant, je tiens à le préciser.
Prenez son adresse, allez sonner chez lui et attendez devant la porte. Il vous prendra, il n'y a pas de problème.
Ne faites pas ça, n'écoutez surtout pas maintenant. Il existe des dizaines de milliers de kinés très, très compétents qui bossent. Et aujourd'hui, il existe des moteurs de recherche que les gens utilisent avec les spécialités des confrères et des consoeurs. Donc, n'hésitez pas à chercher des kinés qui vous correspondent.
C'est délicat comme question, mais est-ce que toi aussi, et encore aujourd'hui, tu es surpris par ton succès fulgurant ?
Ah ouais, sans cesse.
Ouais, quand même.
Bah, sans cesse.
Après t'as un don naturel de vulgariser des sujets un peu techniques et de parler à tout le monde. C'est ce qui fait ta force. On le voit avec les livres que tu sors, avec toutes les vidéos, tous les contenus que tu peux produire. D'ailleurs, toi, tu privilégies la qualité à la quantité. Donc, pourtant, il n'y a pas de baisse d'audience ou de notoriété. Enfin, t'as une vraie force là-dedans. Mais toi aussi, ça te surprend encore aujourd'hui.
Déjà, quand tu m'en parles, j'ai l'impression que tu parles de quelqu'un d'autre. Je me dis, tiens, il a l'air chouette, ce mec. Donc, je n'ai pas vraiment de quoi répondre. Bah, merci.
Ah ouais, écoute, c'est sincère, c'est factuel. C'est, voilà, il n'y a pas rien d'autre à dire, ça c'est sûr. Sur l'actu marathon du week-end, donc le marathon de Paris qui a lieu ce dimanche. Alors là, les dés sont jetés, ça ne sert à rien de faire des choses particulières, etc. La récupération d'un marathon, c'est une question qui nous est souvent posée avec Johan dans les différents épisodes. Sache que, modestement, nous, on a le cabinet du maître Yodu le jeudi. Voilà, les patients viennent et posent des questions à Johan sur la pratique.
C'est une heure par semaine, c'est tout.
C'est une heure par semaine, lui, il a le temps de jouer au golf.
J'ai cru comprendre qu'il ne travaillait pas trop. Il faut pas
non,
trop
mais les honoraires sont chers.
Les honoraires sont élevés, et ses consultations à distance, il ne touche jamais un patient.
Lui aussi, il privilégie l'extrême qualité.
Voilà, c'est ça, exactement. Non, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil concret, Greg, à tous ceux qui seront en post-marathon, qui vont finir le marathon un peu mâchés musculairement, les conseils d'un kiné, justement, pour bien récupérer après un marathon?
Alors, je vais peut-être te surprendre. Et là, tu vas te dire, putain, pourquoi on l'a invité, lui? Mais j'ai envie de te dire, les meilleurs conseils de récupération, c'est, je vais citer Kylian Jornet, c'est la bouffe et le sommeil. Vous ne ferez pas mieux qu'une bonne complémentation alimentaire, mais sur ce que vous connaissez, et là je pense que Johan sera meilleur que moi pour répondre à ça, sur recharger un maximum les recharges énergétiques alimentaires et bien dormir. Maintenant, on peut rajouter des trucs en plus, mais 90% de la récup, ça se fait bouffe et sommeil. Et c'est un sujet qu'on a énormément étudié, parce que après la question, et c'est là où ça va être intéressant, on passe plus sur un vrai faux, sur les massages, les étirements, dormir les jambes en déclive, les bas de contention, le tense, le chaud, le froid, quel type de massage. Là, tu peux rajouter plein de trucs. Et on va y répondre, bien sûr, dans les détails et on pourra comprendre les mécanismes. Mais une fois de plus, je ne peux que rappeler que 90% de la récup, c'est bouffe et sommeil.
Ouais, non, mais ça, c'est essentiel.
Exactement.
Bien sûr.
Et ce serait faux de vouloir dire l'inverse.
Oui, voilà, d'aller chercher des astuces annexes pour aller optimiser cette récupération.
Maintenant, j'aimerais, si tu le veux bien, moi, la récup que j'ai faite avec un ami qu'on a en commun, Dorian Louvet, après New York, justement, puisqu'il finissait son Miles of Discovery. Donc là, c'était la récupération des récupérations. C'est-à-dire que New York, c'était sa dernière étape, son dernier marathon.
Là plus projet. De kiné, plus rien. Quoi. Là, c'était la chemise hawaïenne et les vacances.
Exactement. Et donc, devine comment on a fait notre récup.
J'imagine. Avec du sommeil et de l'alimentation correcte, c'est ça ?
Pas du tout. On est allé faire la brogue.
Et que de l'eau.
Et on a bien fêté ça comme il se devait. Je crois qu'il y a de ça. C'est qu'on peut optimiser plein de choses en santé. Et je serai toujours là pour vous donner des réponses pour optimiser un truc en santé. Mais je fais partie de ces sportifs qui aiment fêter la victoire.
Oui, voilà.
Je trouve qu'il y a parfois une...
Digérer le succès.
Mais bien sûr.
Ou l'échec, d'ailleurs.
Ou l'échec, ouais. Mais le vivre, bordel de merde. En fait, on vit pas que ça pour faire un temps. La frustration, la joie d'un temps, d'une ligne d'arrivée, c'est génial. Mais faisons durer le plaisir. Je vois beaucoup de sportifs qui, à peine finissent la ligne d'arrivée, sont déjà dans le projet d'après.
Bah exactement.
Et tu vois, c'est souvent une question que Mathieu Blanchard disait. On me fait chier avec cette question. C'est quoi sans le projet d'après ? Est-ce qu'on peut prendre le temps de profiter de ça?
Ouais, bien sûr. Ouais, mais tu sais que les organisateurs sont un peu vicieux avec ça. Ah. Fini le marathon de Valence, trois jours après, t'as une relance pour reprendre un
autre. Et tu reçois le mail, ouais,
pour en te disant, prends-le vite parce qu'après, il n'y en aura plus.
Les colas.
Ah ouais, c'est ça. Exactement. Johan, t'es d'accord avec tout ce que t'entends? Enfin, en tout cas, les conseils
qui paraissent
basiques, mais qui sont fondamentaux, de toute façon.
Non, mais c'est des conseils qu'on donne en prépa marathon. Bien manger, bien dormir, c'est la base pour récupérer de la période de charge d'entraînement. Et c'est elle aussi qui va faire en sorte que tu récupères le mieux possible post-marathon. Mais après, moi, là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'aussi, à un moment donné, le cerveau, il doit se déconnecter et se faire plaisir. Et je trouve que la meilleure période pour ça, enfin, moi, pareil, en tant qu'athlète de haut niveau quand même, je sais que derrière un marathon, j'ai besoin de couper. J'ai besoin de 15 jours où tu ne me parles plus de course à pied, où tu ne me parles plus d'alimentation et tu ne me parles plus de GPS et de quoi que ce soit. Tu vois, je veux vraiment avoir une coupure, profiter un peu. Et après, me remettre dans un nouveau cycle de travail avec d'autres objectifs. Donc effectivement, le cerveau, il doit commander un petit peu ce que tu as besoin. Et à l'inverse, tu as des gens pour qui peut-être le marathon va mal se passer. Et eux, pour bien récupérer, ils vont avoir besoin de se projeter très vite sur un nouveau truc, sur un nouveau challenge, pour se dire, vas-y, j'efface ce qui vient de se passer, j'oublie, je ferme un peu les yeux et je repars sur un truc. Donc c'est... Je pense qu'il faut se faire confiance et le cerveau doit guider l'envie et la reprise. Ouais.
Le problème de la relation kiné-patient, c'est que souvent le patient vient trop tard. Il vient jamais en prévention, il vient toujours a posteriori
quand il est blessé, mais surtout, et là on va rentrer un peu plus dans les détails, je ne sais pas combien de temps on a et quel niveau de détail tu voudras que je donne.
On a toute la journée, on peut rester jusqu'à 17h si tu veux, il est 10h26.
Alors moi j'ai coiffeur, hein, je ne vais pas vous cacher.
Ah oui, d'accord.
Moi je peux m'absenter. Parce... Okay.
Je vais te le dire de la façon suivante, j'ai fait un épisode de podcast récemment là-dessus, je l'ai compris récemment au cabinet, je l'ai appelé les nouveaux bigorexiques. Tu me laisses 2 minutes pour t'expliquer.
Je te laisse 2 minutes.
La bigorexie, c'est une forme d'addiction au sport. Et j'entends tout à fait les sportifs qui pourraient écouter ça. Et vraiment, de tout mon cœur, je ne juge aucune addiction. Que ce soit au sport, à la bouffe, à la drogue, au sexe, et ainsi de suite. Mon rôle en tant que pro de santé, c'est de vous accueillir qui que vous soyez et quelle que soit votre histoire de vie et de vous amener vers quelque chose où vous vous sentez un peu plus confortable. Point. Sur la bigorexie, on pourrait se dire, bah, c'est quand même, le sport, c'est bon. Oui. Mais en fait, le risque de la bigorexie, ce n'est pas la tendinite, c'est la dépression et ce qui peut aller avec la dépression. Pourquoi ? Parce que si jamais vous avez des patterns, donc des façons de compenser un mal-être par le sport, le jour où vous vous blessez et que vous ne pouvez plus avoir votre dose d'endorphine, là, ça devient
là,
le bordel.
Dur.
Donc en fait, la bigorexie, pour moi, c'est OK, mais ce qui pose problème, c'est le moment où on se blesse. Ça, c'est un peu avant les anciens bigorexiques. Ils avaient une échéance sportive, ils avaient une programmation sportive, ils avaient un volume d'entraînement en adéquation avec leurs objectifs sportifs. Et donc, c'était plus facile, je mets des guillemets parce que c'est beaucoup plus difficile qu'en réalité, de dire, bah, tu vois, Bernard, en fait, si ton objectif, c'est de faire un Ironman, ton objectif, c'est de faire 3:30 au marathon, mais que tu t'entraînes 7 fois par semaine, que tu as un job de 40 où tu bosses 50 heures par semaine, que tu as 3 gosses dont un qui a des gastro et qui est en bas âge, c'est difficile de jouer sur tous les tableaux.
C'est sûr.
Donc tu vois qu'il faut adapter ton volume d'entraînement pour répondre à ton objectif. Ok, on a des paramètres et on verra à quel point les paramètres de fatigue, de surfatigue, et donc d'où la place de la récupération, sont des facteurs prédisposants à surcumuler des blessures. On peut quantifier tout ça et on peut le mesurer. Sur les nouveaux bigorexiques, j'ai aujourd'hui des gens qui viennent me voir en consultation avec des très hauts volumes d'entraînement, mais qui n'ont pas d'objectif clair. C'est-à-dire que j'ai des gens qui s'entraînent 5, 6, 7 fois par semaine, qui commencent à développer des douleurs. Et ça, ils ont compris que le corps est capable de s'adapter, mais pour s'adapter, il faut faire du renfo. Et ils vont se rajouter encore plus de séances de renfo. Et quand tu leur demandes, mais c'est quoi votre objectif sportif? Pourquoi vous entraînez?
Ah oui, pas d'objectif précis, je m'entraîne parce que j'aime ça, quoi. Parce que j'en ai besoin.
Et même
j'en
pas. Besoin, ouais. Ils n'en sont même pas à cette étape-là.
Ah ouais.
Ils n'ont même pas l'étape de te dire parce que j'en ai besoin. Ils s'entraînent et tu ne sais pas trop, c'est confus. Et il n'y a pas de bonne réponse à ça. Mais pour moi, la première étape par rapport à des problématiques de surentraînement, il y en a beaucoup, c'est identifier pourquoi vous vous entraînez. Est-ce que vous entraînez parce que ça vous fait du bien à l'ego? Oh, à l'ego, très bien, allez-y. Est-ce que vous entraînez pour un shoot de dopamine? Ok, très bien, allez-y. Est-ce que vous entraînez pour du lien social? Très bien, allez-y. Le seul problème, c'est qu'identifier votre moteur principal parce que le jour, et ça arrivera, où il y aura une couille dans le pâté, c'est ça qui vous fera tenir, c'est ça qui vous permettra d'adapter sur le long terme. Et je le rappelle, la blessure fait partie de la vie du sportif. Les sportifs qui durent ne sont pas ceux qui se blessent jamais, c'est ceux qui réussissent à avoir la tête froide et la tête juste face à la blessure.
Tu seras d'accord avec nous, parce que nous, la première question qu'on pose systématiquement dans le podcast, c'est pourquoi tu cours? Le fameux pourquoi?
Et elle est géniale, cette question. Et elle évolue avec le temps, elle évolue en fonction de la semaine.
Oui,
elle évolue.
Oui, c'est une photographie, mais ça
exactement.
Peut évoluer.
Exactement. Ouais. Et donc, à ta question, les gens viennent quand il est trop tard. Oui, mais en même temps, je fais aussi partie de ces kinés qui pensent que la meilleure prévention des blessures, ce n'est pas un kiné, c'est un préparateur physique. Et c'est quelqu'un qui regarde comment tu dors, comment tu bouffes, comment tu t'entraînes et quels sont tes objectifs.
Adapter le corps à ta pratique sportive.
Évidemment.
Avant qu'il y ait un problème.
C'est ça la meilleure. C'est pas la mobilité, c'est pas les étirements. Et une fois de plus, je prêche pas pour ma paroisse. Je regarde juste ce que nous disent la littérature scientifique. Je vous pose la question et je vous invite tous à vous la poser. D'après vous, quel est le critère qui prédispose le plus à se blesser? Ou l'absence de critère qui prédispose le plus à se blesser?
C'est, moi, je dirais que c'est de pas s'écouter.
Ça vient en top 2.
Ah, Johan, tu dirais quoi, toi?
C'est la charge.
C'est plutôt top 3.
Ah. Et ben c'est quoi alors?
C'est le sommeil.
Ah, c'est le sommeil.
Le sommeil.
Ah ouais, c'est fou.
Et en vrai, quand il pense, c'est sûr que quelqu'un qui dort 5 heures par nuit, t'as beau t'écouter et courir comme il faut, si tu dors pas, tu peux pas récupérer. Donc c'est 1 sommeil, 2 éducation et 3 volumes d'entraînement.
Ah ouais, tu vois.
Mais les 3 sont très très liés. Et donc là-dedans, les étirements et le renfo, ça reste une fois de plus, je dirais pas à la marge, c'est important.
Ouais.
Mais
On peut y aller sur le sujet des étirements, parce que là aussi, il y a plein d'écoles différentes.
Ouais.
Il y a les étirements classiques, statiques, etc., qu'on a tous connus quand on a fait du sport collectif enfant, etc., et qu'on ne pratique quasiment plus lorsqu'on devient coureur et pratiquant de la course à pied. Il y a les étirements de mobilité, et ça, Johan en parle souvent, mais ça, c'est routine à lui d'entraînement, d'échauffement, tout ça. Ta position à toi sur les étirements?
Alors, ma vraie position, c'est ça dépend. Si c'est OK pour toi, je finis juste le chapitre du patient et après, je reprends sur les étirements.
Vas-y.
Donc, le patient qui ne s'écoute pas, mais c'est finalement à quel point le patient arrive avec ses idées préconçues. Et le plus dur, notamment dans le sport, c'est qu'on a parfois des idées qui sont préconçues, qui sont parfois trop figées. Et je vous invite plutôt, dans le temps et en fonction de ce qui se passe dans votre vie, à voir ça comme un continuum et d'accepter d'évoluer sur vos idées.
Ouais.
Parce que si jamais vous êtes ancré, ça va être difficile de mettre en place un traitement. Donc, si vous consultez tard, acceptez de changer parfois sur vos idées.
Alors, je veux juste terminer sur le chapitre blessure. Est-ce que quand on a mal et que la douleur est faible, on continue de courir? C'est toujours la question qui revient à Johan aussi.
Elle est essentielle, cette question, parce qu'elle est centrale. Ça dépend de à combien on a mal et ça dépend de combien de temps ça dure. Je crois qu'il y a 3 critères qui sont issus de la clinique du coureur, qui sont souvent ceux que je cite, parce que je les trouve assez clairs. Quand vous courez et que vous avez une sensation qui est inconfortable, posez-vous la question. Ok, cette sensation qui est inconfortable, si je devais lui donner une note de 0 à 10, je lui donnerais combien? Si elle est en dessous de 3 sur 10, vous pouvez vous dire, ok, c'est inconfortable mais pas douloureux, je peux continuer à courir. Si elle est au-dessus de 3 sur 10, là, je vous invite à passer plutôt sur de la marche. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de protocoles entre marche et course à pied sur de la pathologie du coureur. Pathologie du coureur, c'est syndrome rotulien, syndrome quadricipital, syndrome de l'essuie-glace, tendinite achilléenne. C'est les 4 grosses pathos qui ressortent le plus. Tu peux rajouter de la périostite, tu peux rajouter de la tendinite du moyen fessier, mais globalement, on va être dans ce spectre-là. Donc, numéro 1, c'est quelle quantité? Si on est en dessous de 3 sur 10, on peut continuer. Critère numéro 2, qui va avec le critère numéro 1, c'est en dessous de 3 sur 10, est-ce que cette douleur s'arrête avec l'arrêt de la course? Donc, vous êtes là, vous avez un peu mal, un peu de sensation sur le côté du genou quand vous courez. Est-ce que quand cette douleur apparaît, elle est en dessous de 3 sur 10, critère numéro 1. Critère numéro 2, quand je m'arrête et que je commence à marcher, est-ce que cet inconfort disparaît ou est-ce qu'il persiste? Donc si jamais vous validez critère numéro 1, moins de 3 sur 10, critère numéro 2, elle s'arrête à l'arrêt de la pratique, à ce moment-là, vous pouvez continuer. Le critère numéro 1, c'est au lendemain et surlendemain de l'entraînement, votre genou n'a pas gonflé ou votre articulation douloureuse n'a pas gonflé et la sensation d'inconfort est tolérable en dessous de 2 sur 10. Donc c'est normal au lendemain et sur le lendemain de ressentir un inconfort, mais il ne faut pas que ce soit à 4 sur 10.
Okay.
Si vous ne respectez pas ces trois critères-là, donc une douleur plus intense qui perdure à l'arrêt et qui perdure au surlendemain, à ce moment-là, il faut revoir votre volume d'entraînement, il faut aller consulter et il faut en effet voir qu'est-ce qui pose problème.
Le
problème...
Et bien dormir.
Ouais, surtout. Non mais bien dormir, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais il suffit de calculer, posez-vous la question. Si vous parvenez à dormir une heure de plus par jour, chaque jour, ça vous fait une nuit de sommeil en plus quasiment sur la semaine. Je sais que c'est assez fou, mais...
Ouais, je sais pas si ça se calcule je suis d'accord avec ça. Le mec, il t'empile des Legos, il te fait une pyramide et il te dit, viens, je t'invite en Égypte.
À chaque fois, je me dis ça, je me dis, tu te rends compte, si je me couchais une heure plus tôt tous les jours, j'aurais une nuit de 7 heures en plus dans la semaine. Quoi.
Ouais, il te suffit d'économiser 1 euro par jour pour avoir 365 000 euros sur le compte en banque à la fin du mois. Tu le savais ça ou pas?
Je vais essayer, tiens.
La baguette de pain, là.
Non, mais... qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Le souci qu'on a, parce que souvent, nous, on encadre des sportifs, souvent amateurs, mais parfois d'anciens professionnels de différentes disciplines. Et le seuil de douleur est différent en fonction des personnalités.
Le 3 sur 10, chez un athlète de haut niveau, attention.
À Valence, on emmenait des,
c'est un 6 sur 10 pour
des sportifs de haut niveau.
Un lambda.
Notre pote Nasser Bouani, qu'on salue, qui a été champion de France cycliste, quand il nous disait « j'ai mal à 4 sur 10 », Johan me disait, attention, un 4 sur 10 chez Nasser, c'est un 8 sur 10 chez un coureur lambda. Quoi,
t'as tout à fait raison, c'est un sujet qui a été étudié, la perception de la douleur chez les sportifs de haut niveau. Et paradoxalement, ceux qui sont les plus capables de tolérer de l'inconfort, c'est les ultra-trailers.
Ouais.
Donc probablement qu'il y a des mécanismes d'adaptation à la douleur sur la durée. Ce qu'il y a d'intéressant là-dessus, et c'est ce que j'invite chaque sportif à se poser comme question, ma phrase est mal formulée, mais les gens auront compris, c'est faire la différence entre la bonne et la mauvaise douleur. Et pour moi, les sportifs qui sont capables de perdurer, professionnels ou amateurs, c'est ceux qui sont capables de faire la différence entre la bonne et la mauvaise douleur. Mmh. Un bon sportif, tu connais la différence entre un bon et un mauvais sportif?
Ouais, c'est...
Le bon sportif, il a mal.
Il court.
Le mauvais sportif, il a mal. Et il court, mais c'est pas pareil.
Ouais, c'est ça.
Et donc, je dirais que le sportif qui connaît bien son corps, il est capable de venir être très très proche de cet inconfort, même parfois de la douleur extrême, mais savoir que c'est un signal qu'il est capable de tolérer, sur lequel il va même être capable de mettre un délai où il lui faudra pour récupérer. Là où le mauvais sportif, il ressent un signal, pardon, pas le mauvais sportif, celui qui n'a pas encore éveillé sa conscience à la douleur.
Ouais, moins expérimenté.
Exactement. Ouais. Il va juste sentir que ça pète et ça pète dans tous les sens et il ne va pas chercher à comprendre. Et ça, le meilleur critère, c'est le temps et justement cette écoute de dire tiens, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je connais cette douleur? Est-ce que je la connais pas? Et ainsi de suite.
C'est ce qu'on voit avec Johan, nous, toutes les semaines avec le journal de bord. On fait un suivi de sa saison. Tous les lundis, on a le débrief de sa semaine.
Donc il travaille quand même, Johan.
Un petit peu quand même, bien sûr.
Et on
20,
dirait pas.
20 ans de haut niveau et toi, tu sais exactement évaluer une douleur. Quoi. Quand il faut continuer, t'arrêter, mettre de côté, réduire l'intensité.
C'est vachement important parce que même, admettons, pour prendre l'exemple d'une prépa marathon, des fois, tu as des grosses courbatures, tu as des charges d'entrée. Entraînement, t'es fatigué et il faut savoir si est-ce que je risque, est-ce que c'est une ces courbatures peuvent se transformer en élongation, en déchirure ou autre si je cours dessus. Est-ce que je suis déjà fatigué? Est-ce que ajouter une sortie longue par-dessus ça, est-ce que c'est pas un risque de surentraînement? Et c'est vrai que c'est un dosage que tu dois faire avec le coach et surtout, ouais, c'est à toi de te connaître et être en capacité de se dire ok, bon, bah là, ça c'est une sensation normale, je la connais, c'est juste la fatigue de la prépa, je peux courir dessus. Et à l'inverse, des fois, il faut savoir. Faut savoir ralentir. Et ça, effectivement, je pense qu'il n'y a que l'expérience ou pour être en capacité comme ça de pouvoir bien s'auto-diagnostiquer et se gérer. Ouais,
ouais, ça, il faut en bouffer, en fait. Hein.
Bah, exactement.
Et puis, il faut faire l'erreur. Des fois,
malheureusement,
tu fais l'erreur
oui.
Une fois.
C'est ça.
Tu ne la fais plus une deuxième fois.
Ouais. Bon, désolé pour vous. Voilà, il y aura des moments difficiles, mais en tout cas, ça vous servira. Quoi.
Quand t'as une bonne courbature à l'ischio, aller faire des 200 sur la piste,
c'est pas une bonne idée. Voilà, c'est ça.
Et après, quand t'as une déchirure,
tiens, ce que tu soulèves, c'est hyper intéressant. Ça me fait penser à la capacité de tolérance des tissus. Un exemple tout bête. Est-ce que vous connaissez le temps qu'il faut pour que les tissus s'adaptent? Quand je parle de tissus, je parle de peau, de tendons, de ligaments, de disques, d'os.
S'adapte à quoi? À une contrainte?
À une contrainte. et donc aussi sont capables de cicatriser après une blessure.
Ah, c'est plusieurs semaines.
Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'en fait, tout
ne parle de tissu donc vraiment abîmé, vraie blessure alors.
En fait, les processus d'adaptation et de cicatrisation sont un peu les mêmes. On va imaginer la chose suivante. Allez, pour que ça parle à tout le monde, l'apnée. Demain, je te mets la tête sous l'eau et je te dis, allez, tu me fais 5 minutes d'apnée.
Non.
Ça ne marche pas.
Non.
Pourtant, on est d'accord que si je t'entraîne pendant... Voilà, tu décèdes. Si jamais je t'entraîne pendant un an, normalement, on a tous plus ou moins des capacités génétiques, mais normalement, tu devrais être capable d'y arriver.
Progresser, en tout cas.
De progresser. Donc, ton corps, ton système nerveux central va s'adapter à une contrainte. Donc, la fois où je te noie, c'est la blessure. La fois où je t'entraîne, c'est l'adaptation. Donc, quelque part, la blessure, c'est une demande d'adaptation qui va trop vite, trop rapide, ouais. Trop de fois, trop machin. L'adaptation, c'est celle qui est plus progressive. On comprend donc que notre corps est capable de s'adapter. Encore faut-il connaître les délais d'adaptation. Et là où c'est intéressant, c'est que toutes nos structures, en fonction de leur niveau de vascularisation, donc en fonction de leur apport sanguin et en oxygène et en nutriments, ne s'adaptent pas de la même façon. La structure qui est la plus rapide pour s'adapter, c'est la peau. Tu te coupes avec une feuille de papier. Quelque part, parfois, tu as un tout petit peu de sang. L'espace de quelques minutes, ça coagule, ça s'arrête. Et puis, 3-4 jours plus tard, c'est fini.
Terminé.
Voilà. Après, on peut garder des cicatrices à vie. C'est encore autre chose. Enfin, c'est pas encore autre chose. C'est quand le corps s'adapte à une blessure qui a été plus marquée. Donc, la peau va très vite. Elle peut prendre quelques minutes à quelques semaines. Ensuite, c'est le muscle. Le muscle, il va prendre quelques jours à quelques semaines. Globalement, sur une lésion musculaire, on évalue entre 6 semaines et 3 mois. S'il y a une rupture totale, ça peut parfois être chirurgical. Donc, ça veut dire que mon processus d'adaptation sur mon tissu mou musculaire, il doit commencer après une lésion ou une sensation de courbature à être dans une écoute bienveillante dès les 3 premiers jours. Ça veut dire quoi? Si je ressens des courbatures dans mes ischios, à ce moment-là, mon seuil de tolérance commence à me dire « Tiens, il y a un niveau d'alerte, c'est peut-être pas le moment où je vais commencer à me faire des fractionnés, des accélérations. »
Bien sûr.
Encore plus si je dois faire un marathon. Il y a peu d'épreuves d'explosivité dans le marathon. Donc, venir chercher une performance à ce moment-là dans ma prépa cardio-pulmonaire au risque de péter les ischios, c'est un peu con.
Voilà.
Et la lésion des ischios, elle est chiante parce que c'est à la fois musculaire qui cicatrise bien et tendineuse. Merde, le tendon, pour le coup, il est beaucoup moins vascularisé. Et lui, c'est le tendon, il prend beaucoup plus de temps. Et donc, tu vois, de comprendre ces mécanismes-là, on part d'une lésion des ischios où des gens vont traîner parfois des lésions au niveau des ischios pendant des années parce qu'ils ont un
moment
donné...
Parce qu'au départ, il y a une erreur qui a mal été gérée.
Exactement.
Ouais.
Donc, on a le tendon qui va prendre plus de temps. Et là où le tendon est un petit peu chiant, c'est que non seulement il prend du temps, mais il est capable d'encaisser de l'entraînement malgré de la douleur. Donc, on va avoir des gens qui vont avoir de la douleur, mais qui vont être capables d'encaisser. Le ligament, plus rare dans le running, plus fréquent dans le trail, sur de l'entorse, sur de la chute. Le ligament, lui, il va prendre plutôt entre quelques semaines à quelques mois. Et enfin, il y a l'os. Et contrairement à ce que les gens pourraient penser, en tant que kiné, je préfère une bonne fracture qu'une mauvaise entorse.
Ah oui.
Souvent,
parce
les
que...
gens...
Ah oui.
Parce que ça se remet plus vite.
Bien sûr. Et l'os est beaucoup plus solide. Simple. Les composantes articulaires, c'est chiant parce qu'elles incluent de la mobilité. Un fragment osseux, c'est une poutre. Ça pète, tu mets... Je suis nul en travaux. Bonjour, bienvenue dans RMC Brico Déco avec Major Mouvement qui dit que n'est que dalle. Une fois, t'as posé un IPM et j'ai... Ouais, bref. Le renforcement
tu
de l'os.
Tu mets un coup de scotch sur l'IPM.
Ah, voilà. Super. Ok. C'est ça, quoi. Du Chatterton.
Du Chatterton.
Ouais, c'est ça, exactement.
Donc, connaître vos délais de cicatrisation sont aussi un très très bon moyen, et c'est là où le rôle des préparateurs physiques et des coachs est indispensable et bosse main dans la main avec les kinés. C'est justement d'être capable de, en fonction de vos objectifs sportifs, de savoir si vous pouvez ou non maintenir votre prépa, maintenir vos objectifs en fonction de votre blessure.
Les étirements sont-ils essentiels aux coureurs alors ?
Très honnêtement, je dirais plutôt non. Ils ne sont pas essentiels. Et contrairement aux idées reçues, il y a même certains cas où vous les faites où ils pourraient s'avérer contre-productifs. Je vais revenir sur un peu d'histologie. Donc, l'histologie, c'est justement cette compréhension des tissus. Donc, le tissu conjonctif en particulier, c'est tout ce qui est de l'ordre de ma structure, ma charpente. Le tendon, le ligament, le cartilage. Les travaux de Jill Cook dans les années 2000 nous ont permis de complètement mieux comprendre comment fonctionne un tendon. Et quand on parle de tendons, on comprend aussi une partie des étirements. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a parfois mis les étirements à toutes les sauces pour le remède à toutes les problématiques du système musculo-squelettique. Vous avez mal à un tissu conjonctif, vous manquez d'étirements, vous êtes trop raide. Et on s'est rendu compte de quoi ? C'est qu'un tendon qui est lésé, tendon d'Achille, c'est celui qui a été le plus recherché, il a une capacité pour encaisser une contrainte, mais plus de difficulté à la restituer. Or ça, c'est le principe de la course à pied.
Eh oui.
Je tombe, je saute de ma réception, et je fais ça plusieurs fois à l'horizontale et un peu à la verticale, ça s'appelle la course à pied. Donc, on envisage beaucoup plus un tendon et aussi un muscle dans sa capacité comme un ressort à encaisser une contrainte et à la restituer. Donc, une forme de raideur sur un tissu conjonctif pourrait presque plus passer pour un avantage dans la course à pied.
Ah ouais. Johan, toi le spécialiste du tendon d'Achille.
C'est pour ça que je suis raide.
Et c'est tout à fait vrai, c'est souvent pour ça qu'ils sont raides. Alors, il y a une composante génétique forte à la raideur.
Ouais.
Mais je voudrais rassurer les coureurs qui se trouvent raides, c'est plutôt un avantage. On parlait de Manu Petit, les raideurs des ischio-jambiers sont un très gros avantage pour les footballeurs. On pense tous, j'ai cette image qui est parlante de Duga, qui se blesse pendant les phases de poule de 98.
Ça fait.
Vous vous rappelez sur quoi il se blesse ?
Oui,
il
est cette... l'extension.
Une extension.
Ah, pour aller contrôler les ballons.
Exactement.
Bien sûr. Pour l'Arabie Saoudite.
Exactement, on s'en rappelle tous. Et on a mal pour lui.
Ah, oui.
Et bien en fait, c'est souvent ça. C'est un manque quelque part de capacité excentrique des ischio-jambiers qui va un peu avec la raideur. Donc, ce n'est pas la peine de vous étirer en permanence. Maintenant, ça c'est pour les coureurs. Si vous vous sentez raide sur un pattern de course, au moment où vous faites vos gammes athlétiques, vous sentez que cette hanche elle a du mal à monter, au moment où vous voulez allonger la foulée, vous sentez que ça devient plus compliqué, à ce moment-là, oui, le travail plutôt de mobilité fait vraiment sens. Et si jamais par contre dans la vie de tous les jours, vous avez du mal à ramasser un objet au sol, à ce moment-là, les étirements statiques peuvent être pertinents.
Ok. Ce que tu dis pas avec Duga, c'est que lui, il a pas respecté tes fameux délais de cicatrisation, il a joué blessé en finale justement pour être sur la photo, le coquin.
Ah, ça c'était vu.
Franchement, j'aurais fait pareil à sa place.
Oui, bien sûr. L'avant-dernière passe sur le but de Manu Petit, on l'a tous vu. Bravo, ouais. Duga. Alors, la mobilité, tu as commencé à en parler. C'est aussi un de tes sujets de prédilection parce que tu en parles régulièrement. Et paradoxalement, Johan, nous, c'est un sujet dont on a rarement parlé dans RMC Running, d'ailleurs. Le travail de mobilité pour le coureur, l'importance ou pas d'avoir une gamme, une série comme ça d'exercices de mobilité. Quels avantages tu y vois ? Comment tu conseilles de pratiquer la mobilité quand on est un coureur assidu, toi, Greg ?
Alors, sur la mobilité, en effet, on va faire un peu deux grands types de mobilité. La mobilité qu'on va mettre dans les gammes athlétiques. Ça, je le recommande très vivement. Pour deux choses, à la fois pour de l'économie de course, travail du pied, travail de genou, travail de hanche. Je pense que les préparateurs physiques et les coachs sont meilleurs que les kinés pour prendre ce sujet-là. Mais c'est un truc qui fait vraiment la différence. Johan, tu veux prendre la parole là-dessus ou pas ?
Non, vas-y. Moi, je suis assez d'accord aussi hein, sur la mobilité. Tout ce qui est, moi, je le vois. Au bout d'un certain moment, j'ai les chevilles qui deviennent, qui se verrouillent et tout, et j'ai besoin de retrouver de l'amplitude et cette activation musculaire via des exercices de pied et tout ça sont très importants pour retrouver cette capacité de rebond et de sensation qu'on recherche en course à pied, ouais.
T'as vu, la première fois que je lui pose un peu une question technique, c'est la salle où il bégaye, hein, le Johan. Hein.
Bah oui, oui, oui.
Donc, en effet, Johan a tout à fait résumé ça. C'est vraiment sur la sensation de pied, la sensation de rebond. Donc ça, c'est hyper intéressant. Aussi, on a observé plus dans le côté trail que le travail du pied, notamment le travail des intrinsèques du pied, est un bon moyen de prévenir deux types de blessures, fascite plantaire et entorse de cheville. Donc, on a tout intérêt à le faire.
Je pense que c'est l'immense majorité des coureurs qui ne fait pas de travail de mobilité, de gamme, etc.
De cheville, tu veux dire ? Ou
de
tout
même. En dehors des clubs et des personnes informées qui justement ont eu des soucis. Non,
je trouve dur. Je trouve qu'au contraire, c'est quelque chose qui a vraiment tendance à émerger.
Ah ouais ?
Je vois vraiment un changement, une évolution des pratiques où je vois de moins en moins faire des étirements statiques avant et un peu plus inclure ça dans les échauffements. Peut-être que c'est sur l'appellation qu'on a du mal. En fait, là où on parle de mobilité, vous pouvez l'appeler l'échauffement. Ça marche aussi.
Ouais.
Finalement, de commencer.
Stretching. Alors, il y en a qui appellent ça comme ça.
Ouais, stretching, je le mettrais plutôt dans la case étirement, moi, Johan.
Ouais. Et donc, étirement dynamique ?
Ouais, à la limite, étirement dynamique. Finalement, tu vois, c'est aussi là aussi du travail
de
gamme.
L'activation musculaire.
C'est de la pliométrie basse, c'est de l'activation musculaire. Finalement, c'est venir travailler nos muscles dans ce à quoi ils vont être exposés dans la pratique sportive et notamment de venir chercher tout. J'aime bien dire ça, même si ce n'est pas méga, méga juste, mais. Notre corps, on peut l'imaginer un peu comme une chaîne et qu'on a des maillons forts et des maillons faibles. Spontanément, on a plutôt tendance à se reposer sur nos maillons forts Et quand on va avoir tendance à se blesser, c'est parfois quand on a nos maillons faibles qui ne sont pas forcément bien activés. Typiquement, les muscles intrinsèques du pied. Je peux être très fort sur mon mollet, je peux être très fort sur mon talon d'Achille, je peux être très fort sur mon genou, mais si jamais j'ai un pied qui ne fait pas suffisamment son taf, au bout d'un certain nombre de kilométrages, au lieu d'avoir une répartition des contraintes sur plusieurs articulations et plusieurs muscles efficients, je vais avoir tout qui va taper dans mon syndrome rotulien, dans mon tendon rotulien, et donc me causer éventuellement un syndrome rotulien. C'est pour ça que le travail de gamme et à la fois de l'échauffement, mais aussi de la prévention anti-blessure, c'est que ça va vous permettre d'incorporer, sans même vous en rendre compte, un travail polyarticulaire, polymusculaire de toute la chaîne du membre inférieur. C'est pour ça aussi que dans les recos, aujourd'hui, on préfère plus privilégier de la basse intensité et du volume régulier de course, c'est-à-dire que pas mal de sorties en EF en dessous de vos capacités cardio-pulmonaires, et vraiment pour faciliter ce travail de pied. T'es OK avec moi, Johan, ou je déborde ?
Tout à fait.
Donc, l'EF, c'est un super bon moyen pour travailler votre économie de course et être anti-blessure. Maintenant, quand on parle de mobilité, souvent, on va penser à de la mobilité plus proche, pilates, yoga, pour que les gens aient un peu cette image. Celle-là, est-ce qu'elle est pertinente pour le coureur ? Pas tant. Elle est pertinente pour les à côté de votre vie, pour porter un enfant, pour ramasser les courses au fond du truc, où là, c'est pertinent d'avoir un corps qui bouge. Maintenant, une fois de plus, on n'a que... combien d'heures on a dans une semaine ?
Ouh là, bah, 7 fois 24 alors.
Voilà, à peu près 125, mais non, pas du tout. Les nuls en maths.
On est tous nuls en maths. 168, évidemment, me dit le producteur qui a dû calculer ça sur sa calculette d'iPhone. Voilà.
168
non, 7 fois 25, ça peut pas
ça
faire
peut 168. Faire 168. Ouais, alors lui, il est nul en maths, il est nul sur son iPhone.
7 fois 24.
7 fois 24.
Il y a 24 heures dans une journée.
Oui.
5 fois 20.
Ça fait 168.
Bon putain, hey Johan, on est cata. Hein.
Ah ouais.
Ah, on est cata.
Non mais parce que moi je rajoute des heures des fois. Tu
d'accord.
Ouais, parce moi, que je suis jamais sur le même fuseau.
Ah, ouais, et oui, moi je comptais en kilomètres heure, c'est pour ça. Moi je parlais en allure.
Ouais, c'est ça, ok. Non mais Johan, tu nous fais honte, tu mets tout à côté quoi. Les calculs, les conseils techniques et tout. Oh, ça va pas. Non,
il était bien sur les conseils techniques.
Je suis pas concentré ce matin. Je suis déjà dans le marathon de Paris.
Non,
tu
penses à ton rendez-vous chez le coiffeur. C'est ça,
exactement,
ton problème.
Il arrive à grands pas.
Rapidement, tu vois, on en a parlé sur les étirements. Contrairement aux idées reçues, les étirements ne sont pas forcément une très bonne stratégie pour diminuer les courbatures.
Ah,
ouais.
Ok, ça c'est plutôt l'hydratation, le sommeil comme d'habitude.
Et comme d'habitude, et oui. On peut rentrer sur ce point-là si tu veux bien sur les étirements. On a observé que les gens qui pensent que les étirements sont bons pour les courbatures ont une légère diminution, donc peut-être plutôt sur de l'effet placebo. Mmh. Les gens qui n'ont pas d'idée préconçue sur ça n'ont pas de changement. Les étirements après une séance ne modifient pas tellement les performances du lendemain. Donc les étirements après le sport, pour moi, ça va plutôt être sur un élément social. Je suis avec les copains, on d'accord. en profite pour faire un retour au calme et pour se calmer. Vous pouvez faire de la mobilité qui est probablement un poil plus efficace, mais là encore une fois, on est plutôt sur du travail à la marge de la mobilité, préférez le faire en début.
Je l'ai noté, j'ai une question pour toi sur les courbatures justement, mais juste pour terminer sur les fameuses routines et de mise en route, etc., les routines de mobilité, il y a aussi les routines au réveil. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu conseilles, de réveiller le corps comme ça le matin d'une course notamment ? Je sais pas, de faire du rouleau, ce genre de choses. Est-ce que ça a vraiment une utilité ? Est-ce qu'il faut le faire régulièrement ou est-ce qu'en fait, ça aussi, c'est un peu d'effet placebo ? C'est plutôt pour votre tête que pour votre corps ?
Probablement un peu des deux. Je vais être un peu plus léger sur ce que je vais te dire, donc à nuancer. De ce qu'on a observé, c'est qu'on essaie de faire la différence entre... les Américains appellent ça le soreness. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équivalents en français, ça fait pompeux de dire ça, mais c'est vrai. C'est un peu cette sensation de congestion qu'on peut avoir après l'effort sportif et au lendemain. Mmh. Il semblerait que les routines de mobilité et d'automassage permettent de diminuer cette sensation de congestion.
De raideur un peu.
De raideur. Il y a pas mal de paramètres individuels. Ce qu'on sait, par contre, c'est que si jamais à chaque fois vous allez taper dans la douleur sur vos sensations, ça va plutôt avoir tendance à les entretenir. Je vais te donner un exemple très concret. Je ne sais pas s'il en a parlé, du coup, je vais l'anonymiser, mais c'est un de mes potes qui fait du vélo qui s'appelle Nico. Et il a été sportif professionnel et champion du monde. Donc vraiment, Monsieur Fleury, vous n'allez pas vous reconnaître là-dedans.
Voilà, il a donné son nom.
Voilà. Et Nico, il passait 30 minutes par jour, tous les matins, à s'étirer et aller taper dans la douleur. Parce que pour lui, pour avoir des bénéfices dans le sport, il faut aller chercher dans chacun de tes paramètres de la douleur.
Ouais.
Et il se cognait des maux de dos qui étaient parfois assez chiants. Et je lui dis, Nico, est-ce que tu as déjà essayé de ne pas t'étirer pendant toute une semaine ? Et il me dit, Greg, je fais ça depuis que j'ai 15 ans.
Ouais.
Donc, on rentre dans un autre paramètre qui est très fréquent chez le sportif. Il y a à la fois la connaissance, la croyance et les habitudes. Et les trois, il faut apprendre à jongler avec. Et ouais. Donc moi, souvent, j'invite chaque sportif à être tout à fait lucide sur ces paramètres-là. Il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre, mais à être capable, une fois de plus, d'être plus souple dans ses croyances et de voir ce que ça donne quand on change un paramètre. Même si, dans votre tête, il est construit comme croyance forte. Et donc, Nico, je lui dis, bah, parfois, quand on va venir s'étirer en permanence, l'étirement peut être au muscle la même chose que l'entraînement.
Eh oui.
Parce qu'en fait, ça demande aussi des paramètres d'adaptation. L'étirement
n'est pas... impose une contrainte aussi.
Exactement. Eh oui. C'est exactement ça.
Ouais.
Et donc, si on impose trop de contraintes, ça peut être considéré comme un deuxième entraînement, et y compris dans la douleur. Je mets en parenthèse que l'étirement étire très probablement plus les racines nerveuses que le tissu musculaire.
Ah, ça aussi, c'est intéressant, au final.
Ouais.
Donc, ton but premier, il est un peu raté. Quoi.
Et, ouais,
tu veux t'étirer le mollet, finalement, t'étires un peu tout ce qu'il y a autour du mollet plutôt que le muscle ciblé. Quoi.
Oui, et encore une fois, est-ce qu'on cherche à longer la fibre musculaire? Beaucoup plus compliqué qu'on pourrait le penser d'allonger une fibre musculaire, c'est quelque chose de très 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 solide. Par contre, ça peut avoir un intérêt de diminuer une information nerveuse sur du court terme. Et c'est là où j'en viens parfois à cette confusion, c'est que quand on va s'étirer, on va diminuer la perception de la douleur au niveau nociceptif, donc au niveau de l'information du nerf, pas tellement au niveau, au niveau du nerf, point, y compris au niveau du muscle, point, et ce sur plutôt du court terme. Donc, s'étirer soulage sur du court terme, mais si vous venez à chaque fois taper dans la douleur pour avoir ce bénéfice-là, vous allez mettre quand même des contraintes sur le muscle, et du coup, entretenir un phénomène d'adaptation et du coup, parfois, se créer des douleurs chroniques. J'ai pas mal débordé, j'avais pas mal digressé aussi, je vais résumer si jamais ça peut sembler un peu confus. Si jamais vous aimez vous étirer, oui, faites-le si c'est important pour vous. Si par contre, vous observez que vous souffrez de douleurs chroniques au niveau de vos tendons et de vos muscles et que vous étirez régulièrement et que vous étirez dans la douleur, je vous invite à voir ce que votre corps donne comme information quand vous arrêtez de vous étirer avec autant d'intensité.
Ah ouais.
Et vous serez surpris parfois de voir que l'étirement pouvait entretenir le problème.
Johan, est-ce que tu t'étires encore à 40 ans?
Non, je vais pas te mentir.
Plus du tout.
Moi, c'est aussi quelque chose que j'ai enlevé.
Ah ouais.
Au profit de la mobilité, oui.
Ah ouais.
Et du renfort.
Et de la mobilité, t'en fais, Yodu?
Exactement. Oui, par contre, oui. Tout ce travail de mobilité, la sensation de relâchement que je trouve derrière ces petits exos de mobilité, que ce soit deux chevilles, deux hanches, deux bassins, je trouve que même... alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de la mobilité, il va nous dire, mais est-ce que le gainage, pour toi, cette espèce de gainage dynamique, ça fait partie de la mobilité ou pas du tout?
Bah, tu l'as dit, je dirais que gainage statique, non, gainage dynamique.
Gainage dynamique, oui, on est d'accord.
Et c'est drôle qu'avec Yohan, on arrive au même point sur les étirements. Une fois de plus, gardez en tête que c'est très individu dépendant.
Donc, oui.
Y a toujours cette courbe de Gauss où il y a 5% des gens ou qui ne collent pas du tout d'un côté, 5%, et y a, donc...
C'est lié aussi à votre profil, vos habitudes, votre
notre
pratique
temps,
sportive depuis toujours, votre temps. Exactement.
Moi, je vais te dire, la raison pour laquelle j'ai enlevé les étirements statiques de ma vie, c'est que je n'étais pas capable de les faire en dessous de la douleur. C'est-à-dire que quand je faisais un étirement, au bout d'un moment...
Fallait que j'aille au seuil.
Parce que sinon, je n'avais pas l'impression de bosser. Et comme je n'étais pas capable de ne pas le faire dans la douleur, j'ai préféré les enlever.
Ouais. Je voulais revenir justement sur ce que tu as dit sur le travail sur la courbature. Parce que ça, c'est important. Ça fait partie du quotidien des runners qui nous écoutent. Forcément, quand tu travailles, tu enchaînes les séances de qualité, les séances d'endurance fondamentale. Souvent, l'EF est là pour digérer une séance difficile. Donc, quand tu cours, tu as un peu les jambes chargées. Quand, en plus de ça, tu rajoutes du renforcement musculaire dont on va parler, tu es encore plus chargé. Et si tu l'as calé à en dehors d'une séance de qualité, tu peux démarrer une séance de qualité avec les jambes chargées. Le travail sur la courbature, est-ce qu'il faut travailler sur un muscle qui a déjà souffert? Est-ce qu'il faut le laisser reposer? Est-ce que là aussi, il y a des bons conseils de kiné à donner à ceux qui nous écoutent?
Ça te va le niveau de détail que je donne là ou
c'est
trop
excellent, c'est
parfait.
Excellent.
Ok, trop bien.
Bravo.
Sur la courbature, je dirais que ça dépend de l'intensité de la courbature.
Ouais.
Celle qui t'empêche.
Comment on la juge alors?
Eh oui.
Je dirais d'un point de vue fonctionnel, celle qui t'empêche de marcher, je pense que c'est pas forcément pertinent d'aller charger fort dessus.
C'est mauvais signe, ouais.
Là, c'est vraiment la courbature extrême, celle que tu peux avoir après un marathon.
Bien sûr,
typiquement.
Bien sûr.
Voilà.
Ouais.
Quand t'as perdu de la force, que t'as l'impression d'être...
En situation de handicap ou d'avoir pris 30 ans dans la gueule. Ouais. C'est un peu ça.
Ouais, mais tu vois, on connaît tous cette sensation de... Lendemain d'une séance de renfort ou d'une séance de qualité, tu marches le matin, tu te réveilles et tout, tu sens tes muscles.
Ouais.
Tu sens qu'il y a eu du travail d'effectuer la veille.
Et c'est ça.
Mais tu te sens capable d'aller à l'entraînement quand même.
C'est un peu ça, cette sensation de congestion dont je parlais, ce soreness. Je crois que là aussi, on peut... c'est un peu flou, mais on peut se mettre une note de 0 à 10.
Ouais.
Et je dirais que plusieurs choses, je vais le cadrer comme ça. Si à chaque fois vous vous entraînez sur cette sensation-là, c'est que vous en faites trop. Maintenant, dans le « on fait trop », c'est sur ces quatre paramètres. Le volume d'entraînement, le sommeil, on en a déjà parlé. Est-ce que j'ai la bouffe qui convient? Et souvent, il y a un énorme piège au niveau de la bouffe, je vais y revenir juste après. Et sur l'état de stress et sur le niveau mental. Je vais rentrer, allez, tu me donnes 30 secondes pour chacun des éléments.
Allez.
Le volume d'entraînement, évidemment, c'est le critère numéro 1 qui va faire qu'on peut être en surentraînement. Le sommeil, bah, évidemment, si vous dormez moins, alors c'est à partir de 6h30 par nuit, moins de 6h30 par nuit, on commence vraiment à avoir une augmentation du risque de blessure. Mmh. En dessous de 5 heures, vraiment, là, vous êtes dans le rouge.
Johan, aucun risque. Johan, il dort 9 heures par nuit, donc là, aucun
c'est
risque.
En effet, ce qui est largement recommandé pour les sportifs de haut niveau.
Bravo, Johan.
C'est
pas le plus dur. Hein.
Et pourtant, c'est le paramètre hyper important. Et c'est là où beaucoup de sportifs amateurs se font piéger. C'est des gens qui vont avoir un volume d'entraînement de sportifs de haut niveau, mais une qualité de sommeil de quelqu'un qui travaille. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps. À un moment donné, il faut choisir. Et je suis désolé de vous le dire, le choix à faire pour moi, le meilleur, c'est juste ralentir votre volonté de progression. Ouais. Vous allez progresser, mais juste plus lentement.
Ouais.
Troisième, sur la bouffe, il y a un énorme piège là-dessus. Sur la bouffe, c'est que souvent les gens disent « je mange bien ». D'accord, mais tu manges quoi? Ah, mais moi, je mange des produits frais, très, très peu transformés. Ok, c'est super ce que tu me dis, Bernardo. Mais en fait, en réalité...
Ah, c'est le cousin de Bernard.
Oui, c'est... parce que je me dis, Bernard, à chaque fois, je le cite et c'est mon oncle. Et je me dis, le pauvre, à chaque fois, il charge. Alors que je l'adore, il est toujours là quand j'ai besoin de lui. Mais c'est le premier Bernard.
Parce que Bernard, il n'en met pas une dedans. Il fait que des mauvaises réflexions.
Et alors que non, dans la vraie vie, il est génial.
Le vrai Bernard est plutôt bon, quoi. D'accord.
Bref, Bernardo, manger bien c'est très bien, ouais. Mais par contre là ce qu'on te demande d'avoir c'est une alimentation de sportif, à savoir est-ce que tes assiettes couvrent tes besoins nutritionnels de sportif,
oui,
en glucides, en protéines, en lipides et en fibres. Est-ce que tu manges suffisamment notamment de protéines? Les gens ils te disent ouais je mange un peu, et donc vraiment, je ne serais pas le plus grand spécialisé. Je peux recommander, par exemple, le livre de Nouchka, Nouchka Diet. Et il y a plein de livres sur la nutrition du sportif. Mais la nutrition du sportif, ce n'est pas la nutrition d'un non-sportif. Mmh. Et déjà, on n'est pas dans les recos sur ça. Donc, bien bouffer, ce n'est pas juste avoir des produits bien, d'une bonne source. Et enfin, dernier, c'est au niveau du stress. Ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, les gens pensent que le stress, c'est uniquement ce qui se passe dans la tête. Le stress, c'est chimique. Je vais prendre cette métaphore. Si vous mettez du citron sur une plaie, ça fait mal.
Ah oui.
Et pourtant, c'est une réaction qui est chimique. Eh bien, le stress, d'un point de vue chimique, pourrait avoir un peu les mêmes effets que ce citron sur une plaie. Donc, sur le tendon, le stress va jouer de façon chimique. Pour plein de façons. Et devinez quoi ? Le stress est en lien avec l'alimentation, avec le sommeil et avec le volume d'entraînement.
Tu peux stresser ton organisme avec de l'alimentation.
Ah oui.
De la mauvaise alimentation.
Ah mais évidemment.
Mange des trucs acides.
L'alcool.
Oui, oui.
Voilà. Alors, pour info, là, je me fais un peu de pub, si c'est OK. Mais ouais. Tout ça, je le résume dans mon troisième livre, Le Orange, qui s'appelle 8 piliers pour vieillir, pour rester jeune le plus longtemps possible. Et c'est justement des conseils pour faire un peu le tri dans tous ces mélanges. Parce que oui, tout se mélange et parfois, ça peut être un peu confus. Mais quand on les aborde dans l'axe, c'est plus simple. Donc, tu vois, tu as ces quatre paramètres. Volume d'entraînement, sommeil, alimentation et stress. Et les quatre s'imbriquent les uns par rapport aux autres. Donc, si à chaque fois que tu cours, tu as des courbatures, bah, probablement, il y a un de ces quatre items qui passe peut-être à la trappe. Prends le temps de te poser. Prends le temps d'écrire sur un carnet. J'en suis où sur mon volume d'entraînement? Est-ce que je suis encadré? Pas encadré? Est-ce que j'ai la possibilité d'en discuter avec mon coach sportif? Est-ce qu'il est réceptif? Pas réceptif? Est-ce que ses conseils sont adaptés? Pas adaptés? Tac, 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 tac. Maintenant, OK, j'ai des sensations de courbature. Est-ce que je les ai juste le matin, de 10 minutes, un quart d'heure? C'est normal. Passer 40 ans, c'est normal. Se sentir verrouillé, passer 40 ans pendant 10 minutes, c'est normal. Pauvre au-delà de 30 minutes, c'est là où on peut se dire mes sensations de raideur matinale sont un peu trop longues.
D'accord.
Quelqu'un veut aller sur la blague de la raideur matinale?
Non, pas du tout. On te laisse y aller. Il y a quelques vidéos
minutes,
en lien avec le sujet.
30 minutes de raideur matinale, on te laisse y aller. Là.
C'est ça, exactement. Là, le pauvre Johan, il a 40 ans. Donc ça y est, tout ça, ça le concerne. Pauvre.
Donc, maintenant, courir sur une sensation de courbature, c'est relativement normal. Tout va dépendre du niveau de courbature. Et quelque part, ce qui va être un bon indicateur, c'est est-ce que ce niveau de courbature, il est en dessous de 2-3 sur 10, toujours un peu la même chose. Mmh. Et est-ce qu'au bout de 5-10 minutes de ma pratique, ça finit par passer? Bon, ok. Ça veut juste dire qu'en ce moment, j'ai un volume d'entraînement un peu haut. Je regarde mes autres marqueurs, comment je dors, comment je bouffe, comment je suis dans ma tête. Je sais qu'à ce moment-là, je suis un poil plus à risque. Et cette notion du risque, c'est exactement ça qui fait que les sportifs de haut niveau appréhendent plus cette meilleure douleur. C'est qu'à chaque fois, ils temporalisent leurs symptômes en fonction de leurs objectifs de la saison. Ce qui fait l'énorme différence, et on en revient un peu à ces anciens vigorexiques, nouveaux vigorexiques. Une saison d'un sportif, qu'il soit amateur ou de haut niveau, elle est temporalisée en fonction de vos objectifs.
Bien sûr.
Vous ne pouvez pas vous mettre au max à un moment donné, juste à la veille d'un objectif, ça n'a pas de sens. Mmh. Votre objectif, c'est plutôt d'être en max dans vos périodes hors saison, ou alors d'avoir du récup, mais une fois de plus, de planifier tout ça.
Ah, et là, la planification, c'est la clé de toute réussite sportive.
Et j'ai peut-être dit une connerie, Johan, je veux bien que tu me corriges, si jamais, au contraire, on ne doit pas être au max en hors saison. C'est plus ton job que le mien.
Bah, c'est la gestion des pics de forme dont on parle exactement, régulièrement, ouais. Johan. C'est que oui. On ne peut pas être en pic de forme 10 fois par an si on voulait chercher le maximum de son potentiel.
Dis ça à ma meuf, mais bien sûr. On ne peut pas être en pic de forme en permanence.
Eh bah, on va l'inviter si tu veux. Et qu'elle prenne rendez-vous chez le docteur Yodu.
Il y a une nouvelle thématique, ouais.
Écoute, c'est passionnant de t'écouter. Malheureusement, le temps est compté et c'est assez dommage. Mais du coup, on continuera à t'harceler pour que tu reviennes comme
oui,
ça dans ce,
comme
dans ce
ça,
podcast.
Voilà. Voilà. On aura le...
voilà. Et nous, on n'a pas peur de sonner au cabinet et d'attendre qu'un rendez-vous se désiste.
Les
pour
mecs,
que...
c'est des harceleurs.
Voilà, exactement.
Non, moi, je reviens quand vous voulez chez RMC. On est toujours bien reçus.
Eh bah, ben, avec plaisir. Ah, t'es le bienvenu. T'es ici comme chez toi. Non, ce que je voulais te poser comme dernière question, c'est d'après toi, le kiné le plus connu de France, quelles sont les principales erreurs du coureur qu'il pourrait s'il ne les commettait pas, bah lui éviter d'avoir des soucis musculaires. Dans
mais après, il aurait plus de boulot.
Bah ouais,
ils veulent pas te la donner l'info.
Le complot des kinés,
les mecs.
Mince, le complot des kinés, faut pas trop soigner.
Non mais je peux dire que les kinés, ils bénissent l'industrie de la chaussure à plaque de carbone pour les plus de 3, 4 heures. Ils bénissent tous les gens qui courent comme
des fous. C'est comme le carrossier qui voit de la neige, il est ravi.
Oui, c'est lui qui enlève le sel sur la route.
Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais pas capté ça.
Je vais pas vous mentir, vous avez un peu raison quand même. Mais ça nous oblige à nous d'être à jour sur des nouvelles pathologies.
On aura toujours des patients, c'est sûr.
Donc, allez, je dirais ça. La plus grosse erreur du coureur, c'est de penser qu'il n'est pas capable de courir. La deuxième plus grosse erreur du coureur, c'est de penser qu'il est capable de s'adapter vite et qu'il a un organisme absolument incroyable et une génétique de dingue. Partez du principe que vous avez une génétique de merde, mais tout en ayant conscience dans votre capacité que votre entraînement va pouvoir combler ce vide-là. Ouais. Je crois que la meilleure stratégie, c'est un peu con ce que je vais dire, mais d'avoir confiance dans les capacités de notre corps à s'adapter, mais en ayant conscience que ça prend du temps et de votre apprentissage va prendre aussi en considération le fait que vous allez vous planter en chemin.
Et voilà, tout simplement. Voilà. Et comme ça, s'il n'y a jamais un problème, vous pouvez consulter Major Mouvement, vous prenez rendez-vous. Il y a 3 mois de délai, mais parfois il y a des désistements.
Non, en vrai, de vrai...
Acheter le livre, c'est plus rapide.
Ouais,
les livres. Moi, je vais vous dire un truc comme ça. Faites-vous accompagner par des gens dont c'est le métier, par des coachs en running. Vous allez apprendre tellement. Mais moi, quand j'ai préparé le marathon, mais j'apprends à chaque fois que je m'associe à un coach. Ouais. Et déjà, je trouve que mentalement...
Alors que toi, tu as cette formation, tu connais l'organisme, tu sais comment ça fonctionne et tout, mais tu apprends quand même avec un professionnel.
Là, c'est Dorian qui m'a accompagné, mais j'ai appris un nombre de trucs incroyables. Sur mon marathon des sables, j'étais avec des mecs de training thérapie qui sont kinés, préparateurs physiques et qui sont des brutes épaisses. J'ai appris plein de trucs. Ouais. Et c'est ça que je trouve génial.
Bien sûr.
C'est d'apprendre en chemin. Et quand on commence à vieillir, forcément, on peut plus autant performer, mais autant apprendre.
Ouais, et puis on peut adapter sa pratique aussi.
Exactement.
À son âge, aux contraintes, etc.
Exactement.
C'était passionnant.
Bah, je suis content. C'était
merci
trop
beaucoup.
Bien. Merci à tous.
Reste avec nous. Tout de suite, on passe au bon plan matos.
RMC. Le bon plan matos.
Et aujourd'hui, dans le bon plan matos, on met en avant une marque éco-responsable qu'on avait déjà mis à l'honneur il y a quelques mois, voire quelques années dans RMC Running. C'est la marque Circle, la marque éco-responsable. On est avec Martin Le Sueur, le cofondateur de cette marque, qui est en direct avec nous. Salut Martin.
Salut Benoît, enchanté.
Écoute, sois le bienvenu dans RMC Running. On est content déjà de vous recevoir. Pour reparler donc de Circle, alors ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Est-ce que tu peux nous rappeler justement les spécificités de cette marque Circle?
Yes, bien sûr. Écoute, la marque, c'est une marque de running française. On est basé à Paris. On a créé la marque en 2020. On est deux associés. On est une équipe de 10 collaborateurs. On est présent dans 17 pays avec une distribution assez sélective dans des magasins de running et outdoor. Et la spécificité de Circle, c'est qu'on crée des vêtements de running qui sont à la fois techniques, performants et qui sont pensés pour les coureurs exigeants. Donc, comment on définit, nous, un peu l'exigence? C'est qu'on part d'une conviction qui est assez simple. C'est qu'on ne devrait plus choisir entre la performance et la responsabilité. Et du coup, nous, on développe et on a décidé depuis maintenant 6 ans d'investir énormément en R&D. Et on développe des vêtements et des chaussures de running qui sont faits à base de matières recyclées ou d'origine naturelle. Les matières sont sourcées et transformées en Europe et on fabrique tout au Portugal.
Ça veut dire, dans ta démarche, au-delà de la fabrication, donc avec ces circuits courts, c'est aussi de prolonger au maximum la durée de vie de tes produits, que ce soit vestimentaire ou même les chaussures?
Oui, exactement. On a mis en place un système de réparation. Donc, les produits Circle sont réparables à vie, un peu comme Patagonia le fait ou d'autres marques comme Veja. Tu vas sur le site, sur la home page, sur la page d'accueil, et tu as la possibilité de prolonger la durée de vie de ton produit en le réparant gratuitement. C'est bon, en 3 clics. On analyse, on a une centaine de partenaires en France qui nous permettent de réparer les produits. Il y a toujours de temps en temps des petits produits ou des petits fils qui peuvent sauter. Ça arrive au bout de quelques années. Et nous, on est là pour essayer d'augmenter la durabilité de chacun des produits, ce qui crée d'ailleurs un lien assez fort avec nos clients.
C'est bon, ça, la garantie produit sur les articles de running. Bravo, c'est une bonne idée.
Yes. Ouais.
On voulait mettre en avant avec toi aujourd'hui, non pas la gamme vestimentaire, mais donc la chaussure, la SNR, la Supernatural Runner de Circle. Est-ce que tu peux nous en parler, nous décrire ce modèle?
Ouais, complètement. Donc, en effet, on développe des vêtements et on a toujours développé des vêtements. Et parallèlement, on travaillait un peu dans l'ombre depuis 4 ans pour sortir un nouveau produit qui est assez révolutionnaire. C'est en effet la Supernatural Runner. C'est un produit très fort chez nous. C'est un produit qui a été pensé pour les sessions d'entraînement et qui a été pensé pour résoudre un sujet numéro 1 dans le running. C'est qu'un vêtement, tu peux le garder 4, 5, 10 ans. Une chaussure, de par sa confection, elle perd ses propriétés techniques au bout de 500, 700, 800 kilomètres. Et c'est un produit qui vient d'Asie, c'est un produit qui est fait à base de pétrole et c'est un produit qui a du coup, pour certains runners, une durée de vie qui est très limitée. Et nous, on a voulu du coup créer une nouvelle chaîne de valeur, une nouvelle chaîne de production en Europe avec 2 associés, Woolmark et Arkema, pour créer une chaussure qui est faite à 75% de matière naturelle. Donc, c'est majoritairement de la laine, mérinos, et d'huile de ricin, qu'on utilise d'ailleurs pas mal en cosmétique. Et on fabrique tout ça au Portugal.
Est-ce que tu peux nous décrire esthétiquement la chaussure? Moi, je l'ai sous les yeux, j'ai le modèle beige. Déjà, est-ce qu'il y a plusieurs couleurs et à qui elle s'adresse, cette chaussure? À quel type de runner?
Oui, alors, tu as en effet le modèle beige devant les yeux qu'on appelle natural. Il y a aussi une couleur verte et une couleur noire.
Okay.
C'est vraiment une chaussure d'entraînement pour faire de l'endurance fondamentale. C'est un premier modèle d'un point de vue design. On l'a voulu un peu urbaine, qui est d'ailleurs un des piliers chez Circle. Nous, c'est la performance, l'éco-responsabilité aussi, mais le design. On veut apporter une touche un peu plus mode, un peu plus moderne dans l'univers du running. Et cette chaussure répond à ces 3 critères-là. Et du coup, c'est une vraie chaussure d'entraînement que d'ailleurs beaucoup de runners utilisent en chaussure lifestyle après l'avoir utilisée plusieurs fois.
L'avantage, c'est ça. Tu vas au bureau avec, tu arrives en courant, tu gardes les mêmes pompes pour passer ta journée.
C'est hyper pratique, c'est ça l'objectif.
C'est bon,
exactement.
Excellent.
Exactement.
La durée de vie de ce type de produit, est-ce que tu as une idée en termes de kilométrage? Évidemment, ça dépend toujours de l'utilisation, mais est-ce qu'on a une idée là-dessus?
Oui, on est autour de 500 km à peu près, donc on est dans les standards du marché. On considère, nous, que c'est toujours un prototypage. On a présenté cette chaussure il y a maintenant 2 ans et demi dans une émission de télé qui s'appelait « Qui veut être mon associé ?» Enfin, qui s'appelle d'ailleurs « Qui veut être mon associé ?» Et l'objectif, c'est de se dire, on a lancé une production de plus de 3000 pièces. Nous, c'est une production pour des mastodontes, c'est vraiment des prototypages. Nous, on considère que maintenant, ça y est, on a réussi à prouver que c'était possible de le faire en Europe avec des nouvelles matières et avec des partenaires européens. Maintenant, on travaille très dur pour essayer de travailler, d'analyser quelles sont les phases d'amélioration qu'on peut apporter pour lancer des nouveaux modèles en 2027 ou en 2028.
Et ben voilà, donc l'engagement est respecté. J'ai effectivement les couleurs sous les yeux. Il y a un modèle vert d'ailleurs, pour ceux qui aiment un peu d'excentricité pour les coloris, et puis le modèle noir qui passe très bien, que ce soit pour courir ou après pour toute la journée. Où est-ce qu'on peut les retrouver au-delà de votre site? Est-ce que vous êtes chez des revendeurs ou c'est mieux de passer par Internet?
Alors, on est distribué, donc on est dans 17 pays, mais en France, on est distribué chez peu de revendeurs, mais les plus crédibles selon nous. Donc, on est bien sûr chez Iron et chez Alltrick sur la partie digitale avec Snow Leader. On travaille très bien avec Ovio Camper aussi. On travaille aussi avec Running Conseil. Et après, on a aussi une boutique où du coup, vous avez vraiment l'expérience Circle au global, donc c'est au 1 rue de Marseille à Paris, à côté de République, et bien sûr notre site e-commerce où toutes les informations que j'ai rapidement précisées là sont disponibles afin d'analyser de manière méticuleusement tout ce qui compose la SNR.
C'est l'enjeu, hein. Effectivement, il y a un côté esthétique très travaillé. Vous irez voir sur le site de Circle, hein, C-I-R-C-L-E. Je précise que le modèle coûte 175 €, hein, ouais. Martin.
Exactement, 175 €.
Bon, et ben voilà, merci beaucoup d'avoir mis en avant ce beau modèle chez nous, et je te remercie surtout parce que tu fais gagner un exemplaire à notre communauté RMC Running. Donc si ça vous intéresse, vous aurez toutes les images sur notre compte Instagram d'ailleurs, et vous allez sur Insta justement pour participer au tirage au sort, pour tenter votre chance et remporter ce magnifique modèle, la SNR de Circle. Merci beaucoup. Trop Martin, cool. Tu reviens quand tu veux dans RMC Running.
Yes, c'est sympa. Merci beaucoup. À plus.
Et voilà, merci à tous en tout cas de nous avoir suivis cette fois encore. Merci à Greg, Major Mouvement, toujours passionnant de t'écouter. Vous le retrouvez sur ses réseaux sociaux, vous le savez, sur YouTube, sur Instagram. À travers ses livres aussi. C'est quoi le dernier livre qui est sorti d'ailleurs, Greg ?
Bah justement, 8 piliers pour rester jeune le plus longtemps possible.
Et bah allez-y.
Eh ben je vais l'acheter.
Ah bah merci les gars.
Pas. Eh, parce que Johan vieillit, on n'arrête pas de vous le dire.
Oui. Il me le dit à chaque épisode, lui. 40 ans, le mec. Il arrête pas de me le rappeler.
40 ans, pas un cheveu blanc. Je suis jaloux quand même. Comment c'est possible, ça ?
Bah, je suis moins stressé que toi, j'avoue. Hein.
Moi, 38 là.
Moi, j'ai 39. Ah ouais. Et mes enfants, ils me le disent à
chaque
fois.
T'as pas un cheveu blanc, toi non plus ?
Si, sur le côté.
Ah si, ça y est ?
Sur le côté.
Comment vous faites, bon ? C'est pas possible. C'est quoi le secret ?
Bah, ils sont pas tombés déjà, c'est pas mal.
On pourra revenir sur les cheveux blancs ? On pourra faire un truc ?
Là, je vais être un peu léger sur les cheveux.
Ok, bon, on va te laisser bosser. Bon, merci en tout cas, c'était passionnant.
Avec grand plaisir,
merci. Un grand merci au maître Yodu, c'était super.
Merci.
Et bon marathon à tous si vous nous écoutez dès le jour de sortie en ce samedi. Sinon, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.